Bonjour, docteur Bassan.
Bonjour, Madame Paquette.
La glande thyroïde, on a l'impression qu'elle est responsable de beaucoup de choses. C'est-à-dire que souvent, on a différents symptômes. On est fatigué, perte de cheveux, on prend du poids, on ne comprend pas trop pourquoi et on se dit « Ah, c'est peut-être ma glande thyroïde ». Elle a beaucoup de chapeaux, mais en même temps, il faut pouvoir démêler le vrai du faux dans tout ça. Et on va débuter cette conversation en mettant un petit peu la table et en tentant d'expliquer son fonctionnement, son rôle également sur l'ensemble de notre corps.
Ben oui, en fait, la glande thyroïde, c'est une glande qui est en forme de papillon qu'on a dans le cou, juste en dessous là, de la pomme d'Adam. Puis, sa fonction, en fait, c'est de régler la vitesse de chaque organe. Tous les organes, en fait, sont un peu dépendants de la thyroïde pour la vitesse avec laquelle ils vont fonctionner. Donc, le cœur, le cerveau, les poumons, les os, les intestins sont tous un peu contrôlés par la glande thyroïde.
Ah, ce qui expliquerait qu'on peut avoir des problèmes de mémoire, par exemple, si elle ne fonctionne pas bien.
Oui, effectivement. En fait, c'est surtout si elle ne fonctionne pas bien, il peut y avoir des problèmes de dépression, des problèmes de ralentissement un peu le psychomoteur au niveau du cerveau. Mais je vous dirais que ces impacts sur les autres organes sont plus importants sur le cœur, les poumons, les os, les intestins là, et aussi sur le cerveau. Cette glande-là, elle est contrôlée là, par la glande hypophyse qui est en plein centre du cerveau, qui est une toute petite glande là, qui est comme un peu le chef d'orchestre de toutes les glandes du corps puis qui produit une hormone qui s'appelle la TSH. Cette hormone-là va aller, dans le fond, réguler la vitesse avec laquelle la thyroïde fonctionne. Puis, à son tour, la thyroïde va sécréter l'hormone thyroïdienne T4 et la T3, qui sont deux hormones qui sont clés là, dans le fonctionnement du système du corps humain.
Est-ce que c'est une glande qui fonctionne dès notre naissance? Parce qu'on parle d'hormones ici, des fois on attribue les hormones à puberté, tout ça, mais dès qu'on naît, la glande thyroïde est en fonction.
Oui, effectivement, même dès la vie fœtale, là, on sait que l'embryon va être dépendant des hormones thyroïdiennes de la mère jusqu'à environ les 20 premières semaines de grossesse. Puis par la suite, c'est la thyroïde du petit bébé là, qui prend le relais. Puis effectivement, à la naissance, la thyroïde, en général, fonctionne déjà très bien. Là.
Mm-hmm. Maintenant, quels sont les troubles les plus courants de la glande thyroïde?
Bien, en fait, il y en a quatre là, qui sont plus fréquents. Il y aurait l'hypothyroïdie, qui est un fonctionnement là, déficitaire de la glande thyroïde. Il y a aussi l'hyperthyroïdie, qui est le contraire, quand la glande thyroïde va trop vite. Il y a des bosses sur la thyroïde. Nous, dans notre jargon, on appelle ça là, les nodules thyroïdiens. Puis enfin, il y a le cancer de la thyroïde là, qui peut arriver chez environ 1% des gens.
Qui ça touche principalement? Moi, je sais que ma mère, elle souffre d'hypothyroïdie. Beaucoup de femmes dans mon entourage également. J'avais l'impression que ça touchait davantage les femmes. Est-ce que c'est un mythe, ça?
Non, c'est vrai, parce que l'hypothyroïdie, c'est une maladie à anticorps. On appelle ça une maladie auto-immune, parce que des anticorps, là, des petits soldats qui sont supposés nous défendre contre les infections, mais qui s'attaquent à notre propre corps, donc qui attaquent la glande thyroïde.
Okay.
Ça, c'est surtout les femmes qui sont vulnérables aux maladies auto-immunes. Vous n'avez vraiment pas tort. Là.
Ah oui, bon sens de l'observation. Donc, les femmes sont plus touchées par l'hypothyroïdie et par également les autres troubles qui sont liés à la glande thyroïde?
Oui, également par l'hyperthyroïdie et les bosses de la thyroïde. Par contre, le cancer de la thyroïde, ça va toucher autant les femmes que les hommes. Puis effectivement, que l'hérédité, là, comme vous le disiez tout à l'heure, a un très grand rôle à jouer, hein, parce que votre maman vous a peut-être transmis là, dans votre potentiel génétique une propension à faire vous-même des anticorps contre la thyroïde. Donc, vous êtes plus à risque là, effectivement d'avoir de l'hypothyroïdie pour cette raison-là. Là.
Donc, l'hérédité est vraiment en lien avec ces troubles-là.
Tout à fait.
Mais en même temps, ça se détecte assez facilement, c'est-à-dire que on a des symptômes, tout ça qui peuvent, et on le disait tout à l'heure, docteur Brassard, d'entrée de jeu, qui peuvent être liés à bien des choses, là, être fatigué, perte de cheveux, un petit peu un état dépressif, là, ça peut être lié à vraiment une panoplie de choses. Mais pour diagnostiquer un trouble de la glande thyroïde, c'est un test sanguin.
Effectivement, c'est très, très facile de faire le diagnostic de l'hypo ou l'hyperthyroïdie. C'est une prise de sang. Tout de suite, on a la réponse si on a une hyper ou une hypothyroïdie. Par contre, comme vous le disiez, les symptômes de dysthyroïdie, qu'on appelle soit hypo ou hyperthyroïdie, c'est des symptômes qui sont très vagues, on appelle ça peu spécifiques. Ça peut être en lien avec plein d'autres causes. Souvent, les gens sont fatigués, prennent du poids, ils pensent que c'est leur thyroïde.
Mais ouais.
Ils viennent voir le médecin, puis ils sont bien déçus d'apprendre que leur TSH, en fait, est normal. Donc, effectivement, que ces symptômes-là, là, ça peut être plusieurs choses à part la thyroïde. Là.
OK, la prise de sang va démontrer le taux de TSH qui est trop élevé ou pas assez, c'est ça?
qui est, ben, en fait, c'est ça. La TSH, comme je le disais tout à l'heure, c'est la glande hypophyse qui la fabrique. Mm-hmm. Cette TSH-là, quand il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes en circulation, elle va s'élever là, pour stimuler la thyroïde à en faire davantage. Donc, mm-hmm. pour faire la détection de l'hypothyroïdie, c'est une TSH qui va être élevée dans le sang. Puis c'est inversement vrai aussi pour l'hyperthyroïdie. La TSH va être supprimée à ce moment-là.
OK. On parle souvent du rôle de l'iode dans le fait de balancer, de réguler la glande thyroïde. Est-ce que c'est réel?
Oui, tout à fait. L'iode, c'est le substrat. C'est avec ça que les hormones thyroïdiennes, la T4 et la T3 dont je parlais tout à l'heure, sont faites par la thyroïde. Donc, l'iode, ça sert presque exclusivement à ça dans le corps, à faire les hormones thyroïdiennes. Maintenant, c'est un enjeu, oui et non. Maintenant, depuis que le gouvernement là, a iodé le sel dans notre alimentation, le déficit en iode n'existe plus en Amérique ou du moins au Canada, ça c'est sûr. Ça va arriver, par contre, là, chez des gens qui proviennent de pays où il y a des déficits en iode. Par exemple, des gens qui habitent dans les régions montagneuses, dans le désert, là, où ils n'ont pas beaucoup d'accès là, aux poissons puis aux fruits de mer, ça va arriver plus souvent. Mais ici, c'est rarissime, là.
Oui, donc on peut en trouver dans à peu près tous les aliments qu'on consomme?
Tout à fait. Oui, okay. L'iode, il y en a dans tous les aliments transformés parce que le sel qui est utilisé par les compagnies pour le faire est iodé. Dans les fruits de mer, les poissons, il y en a dans plusieurs choses là, qu'on consomme à tous les jours. Donc, ce qui est recommandé comme dose quotidienne, on le dépasse largement là, tous les jours quand on s'alimente avec notre diète nord-américaine.
Mm-hmm. Maintenant, Dr Brassard, j'aimerais ça qu'on fasse ensemble la distinction entre l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie, qui sont deux troubles bien distincts, mais quand même liés à la glande thyroïde. Je vais commencer avec l'hyperthyroïdie parce que, elle est plus rare, si je ne me trompe pas, mais peut-être plus grave.
Effectivement, c'est un petit peu plus... En fait, c'est beaucoup plus rare l'hyperthyroïdie que l'hypothyroïdie. C'est plus grave parce qu'il peut y avoir des complications plus néfastes pour le corps. Mais les deux ont des symptômes qui sont dérangeants, très dérangeants, mm-hmm. là, je vous dirais, autant l'hyper que l'hypothyroïdie.
Et si on voulait un petit peu faire le portrait de ces symptômes-là?
Bien, l'hyperthyroïdie, c'est comme si tout le corps allait plus vite là, que la normale. Okay. Je dis souvent à mes patients, c'est comme si votre corps s'accélérait. Donc, les gens se plaignent d'avoir chaud, une intolérance à la chaleur, de suer, même s'ils font rien de spécial, même si le thermostat dans la maison est réglé là, à la même température que d'habitude. Ils vont avoir des palpitations aussi parce que le cœur va battre plus vite que la normale. Ils vont aller plus souvent à la selle parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'intestin là, s'accélère en lien avec l'intestin, puis en lien aussi avec le fait qu'ils ont plus faim. Là, ils mangent beaucoup plus ces gens-là parce que le métabolisme général est accéléré. Puis malgré ça, ils vont perdre du poids quand même. Mm-hmm. Puis aussi, les femmes peuvent se plaindre là, de ne plus être menstruées. Et ça peut être un signe aussi là, que la thyroïde fonctionne trop vite. Puis tout à l'heure, je parlais de palpitations. Ça peut aller, comme je disais tantôt, pour les complications plus graves jusqu'à des arythmies cardiaques. Parce que le cœur peut battre de façon un peu irrégulière. Ça, c'est pire chez les personnes âgées. Ça peut arriver plus souvent chez eux. Mm-hmm. Puis jusqu'aux accidents cérébrovasculaires aussi. Là, si le cœur bat de façon irrégulière, il y a des trous qui peuvent se former dedans puis aller malheureusement au cerveau. Donc, il faut faire très attention puis le diagnostiquer assez rapidement.
Oui, voilà pourquoi c'est plus grave aussi quand même.
Effectivement, là. Oui. Ça peut causer de l'ostéoporose aussi là, avec des fractures des os là, si la thyroïde va trop vite pendant un très long bout de temps parce que ça va vider les os. Calcium, okay. qui est stocké là.
Et quels sont les traitements?
Ça va dépendre de la cause de l'hyperthyroïdie. D'abord, il faut faire une photo avec une caméra spéciale en médecine nucléaire qui s'appelle une scintigraphie pour déterminer quelle est la cause. Il y a plusieurs grandes causes. La plus fréquente, on parle encore d'anticorps, là, des anticorps qui attaquent la glande thyroïde et qui font en sorte qu'elle va fonctionner plus rapidement. On appelle ça une maladie de Graves. Mm-hmm. Ça, c'est des gens, je peux vous avoir déjà vu des photos, là, qui peuvent avoir les yeux, c'est rare que ça survienne, mais ça peut arriver là, que les gens ont les yeux aussi qui sont un petit peu plus bombés là, en raison des anticorps qui attaquent aussi parfois les tissus autour des yeux. Donc, il y a cette cause-là qui se traite avec des médicaments. On peut ralentir la glande thyroïde ou encore faire un traitement qu'on appelle un traitement à l'iode radioactif. Donc, on donne de l'iode au patient, de l'iode qui est marqué avec la radioactivité, puis ça va aller dans la glande thyroïde pour fabriquer des hormones, sauf que ça va détruire la glande thyroïde en partie là, grâce à cette radioactivité-là.
Et en ce qui a lien à l'hypothyroïdie, j'imagine que c'est l'inverse. Donc, le corps est d'autant plus au ralenti, puisque la glande, là, si elle agit sur les hormones, sur les organes, pardon, d'une façon inverse, ça va un petit peu moins vite. Notre corps est plus lent, disons.
Tout à fait. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est comme si le corps était en hibernation. Donc, les gens, ils se plaignent d'avoir froid, d'être fatigués, d'être constipés. Ils sont enflés un petit peu aussi au niveau des jambes puis du visage. Ils se plaignent que leurs cheveux tombent et que leur voix est plus rauque. On peut l'entendre assez facilement pour les gens chez qui ça fait très longtemps que la condition est là puis ça n'a pas été diagnostiqué encore. La voix est beaucoup plus rauque parce que les tissus dans la gorge sont plus enflés aussi en raison de cette condition-là.
Et les traitements sont plus simples. Un médicament qui fonctionne très bien, je pense.
Effectivement. On donne des hormones thyroïdiennes. En fait, le synthroïde, qui est l'hormone la plus répandue, la formulation la plus répandue, c'est l'hormone naturelle que la glande produit. Donc, ce n'est pas un produit chimique. C'est vraiment la même hormone que ce que la glande produisait. Puis, il y a des craintes populaires que c'est difficile à traiter ou qu'on va engraisser avec le synthroïde. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui écrivent plein de choses sur les forums, mais tout ça, c'est pas vrai. Là. Généralement, ça va très bien. La dose de synthroïde est facile à déterminer. On y va selon le poids du patient. On donne une dose qui est généralement la bonne dès le départ. Puis on fait une prise de sang 2 à 3 mois après pour déterminer si oui, on est arrivé à la bonne dose. Sinon, on fait un petit changement, mais c'est vraiment pas compliqué.
Et est-ce qu'il y a des effets secondaires?
Pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, c'est une hormone naturelle. Donc, s'il y a des effets secondaires, c'est soit parce que la dose n'est pas suffisante ou parce qu'elle est trop forte. Mm-hmm. Mais il n'y a pas d'effet secondaire de toxicité en tant que tel du médicament.
Docteur Brassard, est-ce que l'on sait pourquoi c'est quand même assez répandu, l'hypothyroïdie?
Oui, ben en fait, c'est surtout, on ne sait pas pourquoi, mais les gens ont ça dans leur potentiel génétique, ont ça dans leur bagage génétique, de faire des anticorps contre leur glande thyroïde. Donc oui, c'est assez fréquent, surtout chez les femmes. Pourquoi exactement?
On ne connaît pas les causes. Puis est-ce que on sait si ça se prévient, ne serait-ce que par des habitudes de vie ou par un type d'alimentation?
Je vous dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, de faire d'exercices, comme il est recommandé là, toujours. La chose principale, je vous dirais, si on a une glande qui est vulnérable à ça, par exemple, s'il y en a dans notre famille, là, ça serait d'éviter les produits naturels qui contiennent de l'IA dans grande quantité. Là, je ne parle pas des produits de la mer, je ne parle pas des sushis, je parle vraiment de certains produits naturels, parfois, qui sont prescrits par des naturopathes, qui sont des gouttes d'iode très concentrées ou des tisanes là, aux herbes iode, avec de l'iode. Ça, c'est vraiment néfaste pour les gens qui ont une thyroïde vulnérable parce que ça peut soit stopper complètement la glande ou la faire partir là, de façon excessive, là, créer une hyperthyroïde. Donc, ce serait la chose à éviter. Par ailleurs, les conseils que je pourrais donner, ce serait de surveiller les symptômes, surtout si on a des antécédents familiaux, puis d'en parler à son médecin si jamais on a l'impression là, qu'on a ces symptômes-là.
Oui, mais on ne restreint pas notre consommation de sushis. Bon, on sait qu'il y a des algues ou de poissons, ça, on peut en manger tant qu'on veut.
Effectivement.
OK. Quels sont les impacts d'un trouble de la glande thyroïde qui ne serait pas diagnostiqué, là, qu'on traînerait pendant plusieurs années?
L'hypothyroïdie, ça va être une qualité de vie qui va être beaucoup moindre si on n'est pas traité. C'est sûr qu'on va avoir tous les symptômes que j'ai nommés tout à l'heure. Il y a une complication rare qui s'appelle le coma myxédémateux. Ça, c'est très rare, mais ça arrive chez quelqu'un qui a justement une hypothyroïdie très, très sévère, qui n'est pas traitée depuis des années, chez qui va survenir quelque chose d'intercurrent comme un infarctus ou une infection. Puis là, c'est comme si son corps allait s'arrêter à toute fin pratique. Ça peut causer le coma jusqu'au décès. C'est très rare que ça arrive, mais ça peut arriver là, en hypothyroïdie.
OK. Mais ça ne peut pas, que ce soit l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie, ça ne peut pas se transformer en cancer. Ce n'est pas un facteur de risque.
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
En ce qui a trait au cancer de la glande thyroïde, ça, d'après les lectures que j'ai faites, tout ça, et vous me corrigez si je me trompe, ça semble être un cancer qui, les cas semblent augmenter là, ici en Amérique du Nord de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel?
Absolument. C'est vrai que les cancers de la thyroïde, on en voit de plus en plus, surtout le sous-type qu'on appelle le cancer papillaire, qui est le cancer le plus fréquent. On pense que c'est probablement parce qu'on fait de plus en plus d'examens diagnostiques, comme des échographies, des vaisseaux du cou ou des IRM, là, du coup, qu'on détecte plus les bosses qu'avant. On ne sait pas si c'est réel comme augmentation ou si c'est juste un biais qu'on appelle là, justement de diagnostic par les imageries qu'on fait de plus qu'avant. Là.
Est-ce que l'on connaît les causes?
Les causes du cancer, souvent, il n'y a pas de cause établie encore là, comme je disais tout à l'heure, là, pour les autres problèmes thyroïdiens. Il y a deux facteurs de risque qui sont reconnus, c'est-à-dire des choses qui augmentent les chances de faire un cancer de la thyroïde. Le premier, c'est d'avoir un parent au premier degré qui a eu un cancer de la thyroïde, donc soit un frère, une sœur ou un papa, une maman. Mm-hmm. Puis le deuxième facteur reconnu, c'est d'avoir eu de la radiothérapie dans le cou avant l'âge de 15 ans ou encore d'avoir été près d'un accident nucléaire comme à Tchernobyl là, jeune âge. Ça augmente les risques beaucoup de cancer de la thyroïde.
OK. Et quels sont les impacts, c'est-à-dire les symptômes chez la personne atteinte?
Malheureusement, il n'y a aucun symptôme. Puis ça ne s'explique pas non plus par les prises de sang, là, le cancer de la thyroïde. C'est vraiment une bosse. Soit ça va être une bosse que le patient va se palper dans le cou, soit ça va être le médecin de famille qui va avoir palpé là, une bosse dans la thyroïde à l'examen annuel. Ou encore, comme je disais tout à l'heure, on le trouve de façon tout à fait fortuite, inattendue, sur un examen qu'on a fait pour autre chose. C'est vraiment la raison de référence la plus fréquente de mes patients, c'est ça. Là.
Et cette fameuse bosse-là, c'est la nodule dont vous parliez tout à l'heure?
Okay. Exactement. C'est un nodule dans la thyroïde. On sait que les nodules thyroïdiens, ça, c'est très, très fréquent, surtout chez les femmes. La grande majorité de ces nodules-là, de ces bosses-là, vont être des bosses de chair dans la thyroïde qui seront sans conséquence, mais 5 à 10 % environ de toutes ces bosses-là vont être des cancers de la thyroïde.
Okay.
Donc, c'est important de faire un dépistage, un diagnostic, une ponction quand on trouve une bosse dans la thyroïde, quand c'est indiqué là, selon la taille et tout ça.
Et là, je me tâte le papillon, docteur Brassard.
Oui, bien, c'est ça. Là, les auditeurs vont sûrement se tâter aussi. Là. J'espère qu'ils trouveront pas des choses inquiétantes. Là, mais voilà.
Non, bien sûr, on n'est pas là pour inquiéter personne, mais en même temps, ben, ça nous a permis de mettre les grandes lignes et de nous éclairer un petit peu sur cette glande qu'on a tous, hein, comme je disais, en ouverture, mais qui reste mystérieuse et qu'on ne connaît pas tant que ça. Docteur Maryse Brassard, vous êtes endocrinologue au CHU de Québec. Merci beaucoup, ça a été très apprécié.
Merci à vous, Mme Paquette. Au revoir.
Au revoir.